Chronique Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise.
Bonjour. Il y a quelques années déjà, j'avais attiré l'attention sur ces femmes séditieuses qui se mouvaient autour de Pierre Fassiot et qui faisaient ça pour des raisons non pas frumentaires ou fiscales, comme souvent les révoltes de femmes, non seulement à Genève, mais également en Europe dans la première modernité, mais qui le faisaient notamment pour des raisons politiques. Et en effet, on constate qu'elles soutenaient Pierre Fassiot et ses propositions qui visaient à élargir ou à revenir aux droits possédés par les citoyens et bourgeois au XVIe siècle. Les conclusions sont assez claires. Ces femmes, qui ne sont pas toutes citoyennes et bourgeoises, mais également natives, c'est-à-dire ayant le permis C, dirait-on aujourd'hui, savent très bien ce qu'est le terme « mamelou », ces esclaves d'Égypte, qui ont disparu depuis 3 siècles à l'époque, mais qui signifie pour elles le traître, car « mamelou », c'est le terme qu'on utilisait face aux partisans du duc de Savoie au moment de la Réforme. Ces femmes sont souvent d'un âge, pour nous, moyen, 35 à 55 ans, mais qui à l'époque est un âge relativement élevé. Donc elles savent parfaitement ce qu'elles font, ce ne sont pas de jeunes adolescentes. Elles utilisent d'ailleurs les adolescents pour briser des vitres contre les défenseurs du gouvernement, qui évidemment les appellent les mal intentionnés, leurs partisans étant les bien intentionnés. Mais tout cela est une petite polémique. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est qu'elles ont le mythe du chef, dans la mesure où elles appellent Pierre Fassiot notre prince. Faites de nous ce que vous voulez, vous êtes notre prince. Ce qui, évidemment, sonnait très mal aux oreilles des aristocrates ou des oligarques qui dirigeaient le gouvernement de Genève et pour qui le dernier prince rappelait de très mauvais souvenirs, puisqu'il s'agissait du prince-évêque de Genève. Ces femmes ne seront, bien qu'elles aient en tout cas saccagé entièrement une maison, caillassé, dirions-nous, qu'elles aient manifesté à 2 reprises, ne seront pas mises au bénéfice d'une amnistie qui s'arrêtait à une date très précise, le 26 mai 1707, mais elles continueront le lendemain, voire le surlendemain. Mais, à part quelques-unes, qui seront assez durement punies, notamment par un bannissement qui équivaut à une sorte de mort sociale, et pour ces femmes d'être expulsées de Genève sans profession, sans moyen d'existence, c'est évidemment très difficile. Elles devront faire des réparations, certaines devront porter une torche ardente et défiler de l'endroit où elles ont saccagé la maison jusqu'à l'hôtel de ville ou jusqu'à une porte de la ville, pieds nus, avec simplement revêtus d'une espèce de tunique blanche. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au départ, il n'y avait que 3 ou 4 noms cités. C'est notamment le cas de femmes qui sont nommément désignées dans les registres du Conseil, et dans les 2 ouvrages consacrés à l'affaire Pierre Fassiot, celui d'André Corbat de 1923 et celui de Nicole et Olivier Fassiot de 2007. Mais une mention dans les registres du Conseil dit que plusieurs de ces femmes, évidemment probablement pas vraiment des citoyennes, sont assistées par l'hôpital. Et cela m'a permis de découvrir que dans les registres d'assistance de l'hôpital, dans la première semaine de juin, au moment où commence la répression, on découvre tout d'un coup une 30aine de noms de femmes dont la pension hebdomadaire ou mensuelle est réduite de moitié. Et on dit textuellement pour la première ou la deuxième d'entre elles qu'il s'agit de la diminuer vu leur méchante attitude au moment des événements du 26 et du 27 mai 1707. Donc, on utilise à ce moment-là déjà l'aide sociale comme une arme répressive. Et indépendamment des bannissements, etc., la plupart de ces femmes ne parviendront qu'au bout de longs mois à retrouver une partie de leur pension. Les enfants qui avaient les adolescents dépendent évidemment de leurs parents et sont donc soumis au même régime, car c'est toute la famille qui se trouve ainsi privée. Il y a pourtant deux enfants qui, pour une raison que j'ignore, ont droit à une assistance et on ne parle pas de leurs parents. Alors ceux-ci, non seulement voient leur ration de pain hebdomadaire diminuer de moitié, mais on précise de surcroît, petite vengeance des autorités, qu'ils sont réduits au pain noir. Ainsi allait la vie et la société en 1707.